Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le droit, le devoir, la tribune et le soleil. Au programme, les Bouddhas du Canada. Quelle place devraient occuper les idéologies en journalisme? Comme l'Alberta et la Saskatchewan, le Québec doit oser l'autonomie. La pensée technologique doit trouver sa place dans nos écoles. L'étonnant cadeau de Christian Dubé. Et le mythe de la disparition des abeilles. Bonne écoute.
Les Bouddhas du Canada. Une chronique de Geneviève Tellier parue le 10 décembre 2022 dans Le Droit. Faisant référence à la controverse actuelle qui sévit au Musée des beaux-arts du Canada, MBAC, quelqu'un me disait l'autre jour que cela lui rappelait étrangement l'entreprise de destruction des deux statues géantes de Bouddha menées par les talibans il y a quelques années en Afghanistan. Au nom de principes moraux douteux, interdire les représentations de figures humaines, les talibans avaient alors détruit un patrimoine culturel d'une richesse inestimable pour l'humanité. Évidemment, le MBAC n'est pas en train de détruire sa collection. C'est ce que j'ai immédiatement répondu à mon interlocuteur. Mais en suis-je certaine? Suis-je certaine qu'un travail de suppression des œuvres passées ou encore de réécriture de l'histoire de l'art du Canada selon une certaine vision morale, rigide voire dogmatique, n'est pas en train de se produire? La réponse est non. J'ai un doute. Car aucun dirigeant du MBAC n'a pu expliquer la nouvelle stratégie du musée. Personne n'a pu expliquer pourquoi plusieurs gestionnaires compétents avaient été congédiés si ce n'est pour dire qu'il fallait du changement. Personne non plus n'a pu expliquer pourquoi ces décisions d'une très grande importance, qui auront des répercussions pendant de nombreuses années, ont été prises par sa directrice générale par intérim, donc une personne qui n'occupe que temporairement son poste. Ceci est contraire à toutes les saines pratiques de gouvernance organisationnelle. Enfin, personne n'a été capable de démontrer que le musée est encore capable de collaborer avec plusieurs acteurs majeurs du milieu des arts visuels qui, eux, semble très inquiet des changements annoncés. Les dirigeants du musée semblent avoir oublié qu'ils sont les fiduciaires de fonds publics. L'an passé, par exemple, le MBAC a obtenu plus de 50 millions de dollars du gouvernement du Canada, ce qui représente les trois quarts de son budget annuel. Le musée est donc privilégié de pouvoir compter sur un tel appui. En échange de ces fonds, cependant, les dirigeants du MBAC ont un devoir de transparence et de reddition de comptes vis-à-vis le public. Cette reddition de comptes ne veut pas dire que c'est le public ou encore le gouvernement qui doit décider des orientations stratégiques du musée. Ce dernier dispose de toute la marge de manœuvre nécessaire pour embaucher des gestionnaires compétents qui, eux, auront la légitimité de prendre les meilleures décisions possibles et de voir à leur mise en œuvre. Par contre, on n'a plus l'impression que le musée possède cette compétence et donc cette légitimité. Est-ce qu'il agit véritablement dans l'intérêt du bien public? Lorsqu'on lit son plan stratégique, rien ne nous rassure. Le document est parsemé de généralités et de phrases creuses, très populaires auprès de certains militants appuyant une morale de justice sociale bien précise. Nous sommes plus que jamais engagés dans une démarche antiraciste et anti-oppression. Nous travaillons de manière ouverte et inclusive afin de créer une expérience chaleureuse pour chacun, chacune. Nous préparons notre collection et notre programme dans un souci de représentation des communautés diverses et intersectionnelles. nous nous attaquons activement aux obstacles systémiques, à un engagement équitable et à une véritable inclusion, etc. Le véritable problème n'est pas dans la poursuite de ces objectifs, mais bien dans leur mise en œuvre. La direction du MBAC s'affiche comme étant ouverte, inclusive, prête au dialogue et à la remise en question. En revanche, elle congédie des employés qui ne partagent pas sa vision et refuse de s'expliquer lorsque des critiques sont formulées sur la place publique à propos de ses décisions et ses méthodes de gestion. Comment alors avoir confiance dans une organisation qui fait exactement le contraire de ce qu'elle dit? C'est cela qui est inquiétant. Et c'est pour cela qu'à l'avenir, quand j'entendrai une proposition venant du MBAC, je vais penser au Bouddha. Je me demanderai si le musée n'est pas en train de détruire quelque chose d'important au nom d'un principe moral discutable. C'était « Les Bouddhas du Canada », une chronique de Geneviève Tellier, parue le 10 décembre 2022 dans Le Droit.
Quelle place devraient occuper les idéologies en journalisme? Un texte d'opinion de Marie-Danielle Tremblay, paru le 19 décembre 2022 dans Le Devoir. L'autrice est chercheure, chargée de cours et doctorante en communication. À une époque où les technologies numériques contribuent à redéfinir notre rapport au savoir et à la connaissance, le débat récemment ravivé sur la neutralité journalistique soulève une question importante, soit celle de la relation entre l'objectivité et la confiance. À ce propos, la recherche en communication tend à confirmer qu'un positionnement neutre favorise la confiance du public, mais avec certaines nuances. Par exemple, une enquête de Langlois, Proulx et Sauvageau, 2020, révèle que, malgré un penchant déclaré pour les reportages objectifs, plusieurs Québécois déclarent placer leur foi en des journalistes qui font régulièrement état d'un certain degré de subjectivité, notamment des animateurs d'émissions d'information, exemple Mario Dumont ou Paul Arcan, ou des chroniqueurs comme Patrick Lagacé ou Richard Martineau. Dans un climat où la confiance envers les institutions continue à se fragiliser, ces résultats invitent à s'interroger une nouvelle fois sur la place que devraient occuper les idéologies en journalisme. Pour mieux saisir l'importance du débat actuel sur l'objectivité, il est utile de le replacer dans le contexte de la crise de confiance envers les institutions et anciennes figures d'autorité. En plus d'être liée à différentes dynamiques sociales, cette crise peut également être attribuée aux nouvelles technologies de l'information qui privent les experts des savoirs auparavant exclusifs sur lesquels était basée une bonne partie de la confiance placée en eux. Avant Internet, une part non négligeable de la confiance accordée, par exemple, à un médecin, reposait sur des connaissances spécifiques acquises sur la maladie, un savoir qui ne pouvait être remis en doute par le patient qu'au prix de recherches laborieuses. Cette donnée a néanmoins changé avec la popularisation du Web, qui permet désormais à chacun d'accéder en quelques clics à des explications contradictoires sur n'importe quel symptôme, semant ainsi le doute et la confusion. Il en va de même pour les contenus journalistiques qui subissent aujourd'hui une concurrence inégalée. En retirant l'accès prioritaire à l'information des mains des professionnels, les médias numériques les ont en somme dépouillés d'une partie de leur légitimité. Au demeurant, ces mêmes technologies ont permis de dévoiler les nombreuses failles des systèmes. Or, la confiance fonctionne d'une telle manière que quelques mauvais exemples peuvent jeter le discrédit sur toute une institution. En conséquence, le citoyen est maintenant confronté malgré lui au besoin fréquent de se livrer à un exercice d'évaluation avant de décider où placer sa confiance, ce qui, faut-il le préciser, est extrêmement exigeant. Pour diminuer la complexité, certains vont choisir de s'en remettre à des individus qu'ils pensent connaître, ce qui pourrait par ailleurs expliquer l'ascension rapide de célébrités à des postes d'autorité auparavant occupés par des experts. Cette réalité crée pour les institutions un besoin de fournir plus de renseignements sur eux-mêmes, d'une part pour aider les publics à les évaluer, et d'autre part pour redémontrer constamment leur crédibilité, l'idée étant qu'à l'ère du Web, il ne suffit pas toujours d'être digne de confiance pour se voir reconnaître une autorité. C'est dans ce contexte que s'inscrit le plaidoyer pour une plus grande transparence de la presse au sujet de ses inévitables biais idéologiques. Ici, il n'est nullement question d'encourager les médias à adopter un positionnement engagé, au contraire. Dans un environnement médiatique qui échappe à tout contrôle, l'impartialité du journaliste n'est plus simplement une norme, mais devient un facteur important de différenciation. Néanmoins, se poser en observateur neutre n'a jamais empêché quiconque d'avoir des opinions et n'implique pas forcément de taire celles-ci. En fait, à notre époque, toute démarche qui vise à dissimuler des informations sur une personne ou une institution, incluant ses valeurs, sentiments, intérêts et convictions, a le potentiel de créer de la défiance, souvent même beaucoup plus que les informations en elles-mêmes. En revanche, nommer explicitement ces éventuels biais peut aider à neutraliser la critique. Si on en croit les règles de la qualité communicationnelle, le simple fait d'annoncer, par exemple, qu'un article s'inscrit dans un contexte idéologique pro-démocratie ou que la majorité des rédacteurs d'une salle de nouvelles sont personnellement pro-environnement pourrait avoir un effet positif sur la confiance du public, surtout si cette annonce s'accompagne d'une volonté déclarée de redoubler d'efforts pour ne pas laisser ses valeurs influencer la couverture de l'actualité. Bien sûr, de telles mesures sont contraires à des pratiques profondément ancrées, ce qui explique qu'elles sont souvent rejetées avant même d'être sérieusement considérées. Mais remettre en cause les idées reçues fait également partie de l'ADN des journalistes, ce qui laisse envisager que la réflexion sur ce sujet pourrait encore évoluer. C'était « Quelle place devraient occuper les idéologies en journalisme ?» un texte d'opinion de Marie-Danielle Tremblay, paru le 19 décembre 2022 dans Le Devoir. Comme l'Alberta et la Saskatchewan, le Québec doit oser l'autonomie. Un texte d'opinion de Maître Constantinos Merakos, constitutionnaliste et candidat conservateur dans Chomedey en octobre dernier, et d'Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, paru le 20 décembre 2022 dans Le Devoir. Les parlements de l'Alberta et de la Saskatchewan ont récemment adopté ou sont sur le point d'adopter des lois visant à protéger les champs de compétences des provinces, notamment dans le domaine de l'énergie, contre la volonté centralisatrice du gouvernement fédéral de Justin Trudeau. Après des amendements notables, l'Alberta a adopté la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni le 8 décembre dernier, tandis que la Saskatchewan a voté à l'unanimité en faveur du projet de loi Saskatchewan First lors de la deuxième lecture le 28 novembre dernier. Bien que légèrement différentes dans leur mise en application, les deux lois ont le même objectif principal, protéger les compétences des provinces et prendre des actions concrètes contre des politiques ou des initiatives du gouvernement fédéral jugées nuisibles ou causant un préjudice aux Albertains ou aux Saskatchewanais, particulièrement en lien avec l'exploitation des ressources naturelles. Le Parti conservateur du Québec salue le courage législatif des deux parlements et continuera de suivre avec grand intérêt le développement et la mise en place des deux lois autonomistes de l'Alberta et de la Saskatchewan. Bien que nous soyons toujours en train d'analyser plus en détail les dispositions des deux lois, de prime abord, nous trouvons l'approche intéressante et innovante pour tenter de freiner l'approche centralisatrice du gouvernement Trudeau. Il faut toutefois étudier plus en profondeur si une telle approche peut être applicable et souhaitable pour le Québec et prendre en compte leurs impacts sur les Premières Nations et les Inuits. Cela étant dit, nous ne comprenons pas l'opposition sommaire et sans étude sérieuse du premier ministre québécois François Legault, lui qui se fait continuellement fermer la porte au nez sur ses demandes par le gouvernement Trudeau. Pour la première fois depuis des décennies, le Québec se fait ravir le leadership sur la défense des compétences des provinces et sur l'opposition aux mesures centralisatrices du gouvernement fédéral. Le premier ministre Legault devrait plutôt saluer ces initiatives et faire des deux provinces des alliés dans la quête d'une plus grande autonomie du Québec à l'intérieur de la Confédération canadienne. M. Legault parle beaucoup de rapatriement de pouvoir et en a fait sa grande priorité, mais il n'a aucune stratégie, aucun allié, aucune démarche concrète pour protéger et augmenter les pouvoirs du Québec. Encore une fois, beaucoup de paroles en l'air sans action concrète. De toute évidence, M. Legault a préféré les coups de gueule et les symboles plutôt que les résultats et les gains concrets pour le Québec. Au lieu de rejeter les initiatives de l'Alberta et de la Saskatchewan, le Parti conservateur du Québec tenterait de mieux comprendre leur démarche, d'en faire des partenaires et, si possible, d'élargir une coalition qui protège plus efficacement les pouvoirs des provinces. Une alliance conservatrice avec les conservateurs des autres provinces, mais aussi avec les conservateurs fédéraux. Historiquement, les conservateurs ont toujours été plus décentralisateurs et respectueux des compétences des provinces que leurs adversaires libéraux ou néo-démocrates. C'est le Parti conservateur du Canada, sous le leadership de l'ex-premier ministre Stephen Harper, qui a aussi reconnu que les Québécois forment un peuple. Pendant beaucoup trop longtemps, les Québécois se sont divisés sur l'enjeu constitutionnel, alors que le Canada anglais constituait pratiquement un bloc monolithique. Le temps est venu d'unir tous les Québécois qui sont très majoritairement autonomistes afin de s'allier aux Bleus du Canada. C'était « Comme l'Alberta et la Saskatchewan, le Québec doit oser l'autonomie », un texte d'opinion de Maître Constantinos Merakos et d'Éric Duhem, paru le 20 décembre 2022 dans Le Devoir. La pensée technologique doit trouver sa place dans nos écoles. Un texte d'opinion de Michel Huneau et François Gagnon, paru le 21 décembre 2022 dans Le Devoir. Le premier est directeur exécutif des affaires académiques de l'École de technologie supérieure, ETS. Le second est directeur général et chef de la direction de l'ETS. L'École de technologie supérieure, ETS, ajoute sa voix à toutes celles qui se sont fait entendre dans le cadre de la COP15 pour qu'une plus grande place soit faite aux questions environnementales dans les cours de sciences et technologies des programmes d'enseignement primaire et secondaire. Et nous allons encore plus loin. Ne devrions-nous pas dépasser la conscientisation et nous assurer que nos élèves peuvent participer à la lutte contre les changements climatiques et à l'adaptation à ceux-ci? Au-delà donc de la conscientisation aux enjeux environnementaux, nous croyons qu'il est grand temps de mieux outiller nos jeunes dans l'apprentissage d'une pensée technologique. Mais qu'est-ce que la pensée technologique? C'est une façon de voir le monde et les solutions possibles sous la loupe des applications de la technologie. Il faut, dès un jeune âge, stimuler l'intérêt des enfants pour les technologies pour assurer une relève nécessaire dans des professions qui ont une importance majeure pour le Québec. Il s'agit de stimuler la curiosité et de faire développer des réflexes en renforçant une approche multidisciplinaire dans un monde où la technologie est omniprésente. Une éco-anxiété et un sentiment d'impuissance habitent les jeunes générations face à la crise climatique. Changeons l'approche et dotons les élèves des compétences et des connaissances nécessaires afin qu'ils puissent relever les défis de demain. La pensée technologique permet de trouver des solutions et prépare nos élèves à mieux prendre en compte les contraintes environnementales, sociales, économiques, etc. Cela passe nécessairement par une meilleure formation de nos enseignants et enseignantes des niveaux primaires et secondaires, afin qu'ils et elles puissent offrir un enseignement technologique à même de répondre aux besoins. Pour assurer la transmission d'une pensée technologique aux enseignants et enseignantes, il faut impliquer le milieu du génie dans le domaine éducatif afin de fournir des situations d'apprentissage authentiques. Sans matériel pédagogique adéquat et sans les dimensions humaines, sociales et environnementales dans leur compréhension de la technologie, il n'est pas surprenant que plusieurs élèves du niveau secondaire n'arrivent pas à se projeter dans une carrière en technologie. Nous croyons qu'il est urgent de recenser, au Québec et à l'international, les meilleurs modèles utilisés pour développer la pensée technologique et susciter l'intérêt général des élèves pour les sciences des technologies et de l'information et de s'en inspirer. Refonte du programme. C'est avec la révision de l'organisation des contenus par l'intégration des principes fondamentaux et la revue de la structure des programmes de technologie que ceux-ci prendront tout leur sens. Et au-delà de la structure des programmes, la formation doit faire plus de place à la technologie et mettre en avant des situations d'apprentissage et d'évaluation qui permettent d'approfondir la pensée technologique. Ainsi, si le Québec veut se tailler une place de choix dans les technologies environnementales, par exemple, former les jeunes à la pensée technologique et les initier aux modes de pensée, notamment de l'ingénierie et des technologies, est un passage nécessaire. Il est plus que temps que toutes les forces vives du système d'enseignement primaire et secondaire, les collègues des facultés d'éducation, de sciences et de génie du Québec et les ministères, travaillent ensemble pour améliorer la formation des enseignants et des enseignantes en technologie. Pour sa part, l'ETS répond présente et souhaite collaborer activement aux initiatives de formation conjointe entre les technologies et l'éducation afin de mieux accompagner et outiller le corps enseignant. C'était « La pensée technologique doit trouver sa place dans nos écoles », un texte d'opinion de Michel Huneau et François Gagnon, paru le 21 décembre 2022 dans Le Devoir.
L'étonnant cadeau de Christian Dubé. Un texte d'opinion de Donald Charette, paru le 20 décembre 2022 dans La Tribune. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a tenu des propos sidérants récemment en jonglant avec l'idée d'émettre une facture fictive lorsqu'un Québécois profite du réseau de la santé. Ce concept de facture fictive destiné à illustrer que notre système de santé est universel et gratuit, circule régulièrement dans les officines gouvernementales. On croit rêver quand ce dernier affirme « Quel ne serait pas le plaisir et le bonheur d'un citoyen de dire « Je viens de recevoir un beau cadeau de 18 000 $ parce que j'ai fait changer mes deux hanches et puis ça ne m'a rien coûté. » Un cadeau? L'assurance maladie, c'est un système d'assurance qui sert à couvrir les frais médicaux quand le besoin se présente. Les Québécois paient des tonnes de taxes et de lourds impôts et plus de la moitié de cette somme aboutit dans un réseau de la santé déficient. Recevoir un service pour lequel on a payé très cher toute sa vie, ce n'est pas un cadeau et, incidemment, personne ne sauterait de joie en recevant une facture, même factice, après une opération. Les citoyens sont en droit de se demander s'ils en ont pour leur argent dans ce système public. La liste d'attente pour une consultation avec un médecin spécialiste contient actuellement 784 000 noms et 60 % des demandes sont hors délai. Le délai médical acceptable de 57 jours pour un patient atteint du cancer est dépassé pour plus d'un patient sur cinq. Le temps d'attente aux urgences s'établit en moyenne à 13h42 minutes. Malgré les engagements pris par une succession de partis au pouvoir à Québec, les indicateurs si chers au ministre et au premier ministre Legault démontrent que notre réseau lui-même est aux soins intensifs. On vient de reconnaître bien tardivement qu'il faudra l'ouvrir davantage au privé, avec la création de mini-hôpitaux pour le remettre sur pied. Il est assez inquiétant de constater que le ministre de la Santé, qui a reçu le mandat de refonder ce réseau en superposant une nouvelle structure, Santé Québec, en est réduit à recycler de vieilles propositions qui nécessiteraient encore plus de contrôle bureaucratique. C'était l'étonnant cadeau de Christian Dubé, un texte d'opinion de Donald Charette, paru le 20 décembre 2022 dans La Tribune.
Le mythe de la disparition des abeilles. Un texte d'opinion de Normand Gilles, paru le 27 décembre 2022 dans Le Soleil. Il n'est pas rare, dans les pages de lettres et de libres opinions dans les journaux, de lire des textes prévoyant un très mauvais destin à l'humanité à court ou moyen terme. Et très souvent, dans ces textes, on donne en exemple la disparition prochaine des abeilles, nécessaire à la pollinisation d'un grand nombre de végétaux qui nous mènerait tout droit à une grande famine. Pourtant, il s'agit d'un mythe qu'il faudrait cesser de répandre. D'ailleurs, cette affirmation fait perdre beaucoup de crédibilité aux auteurs qui la répètent sans en vérifier la justesse. L'abeille est un insecte domestiqué depuis des milliers d'années. C'est l'équivalent d'un animal d'élevage. Si vous voulez 50 millions d'abeilles supplémentaires, les producteurs se feront un plaisir de vous les procurer. Il ne s'agit pas de nier que la vie d'abeille est de plus en plus difficile dans ce monde, arrosé de produits chimiques devant favoriser une agriculture toujours plus efficace. Mais la réalité est que le nombre d'abeilles ne cesse d'augmenter depuis des années, à peu près partout dans le monde. Le vulgarisateur scientifique et journaliste du Soleil, Jean-François Clich, a publié un article très détaillé sur le sujet en 2017 pour le magazine Québec Science, « Des abeilles pas si rares ». On peut y lire qu'en 2005, on dénombrait 37 000 colonies ou ruches au Québec, alors qu'en 2016, il y en avait 64 000. Ce n'est ici qu'un exemple de fausse information que l'on répète sans savoir d'où cela vient. L'ensemble des paramètres concernant l'environnement sont extrêmement complexes. Cependant, les militants qu'on pourrait qualifier de « catastrophistes » nuisent au débat plutôt que le contraire. C'était « Le mythe de la disparition des abeilles », un texte d'opinion de Normand Gilles, paru le 27 décembre 2022 dans « Le Soleil ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Luc Mercure et Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.